Chapitre 7. Madame d'Imbécourt s'étonna du peu d'effet que ses coquetteries avec M. d'Aversac avaient produit sur Guy de Malivert. Cet insuccès bouleversait toutes ses idées de stratégie féminine. Elle croyait que rien ne ravivait l'amour comme une pointe de jalousie, mais elle oubliait qu'il fallait pour la vérité de la maxime que l'amour existât. Car elle ne pouvait supposer qu'un garçon qui venait assez régulièrement à ses mercredis depuis 3 ans, qui lui apportait parfois un bouquet les jours d'italien, et se tenait s'endormir au fond de sa loge, ne fût pas un peu épris de ses charmes. N'était-elle pas jeune, belle, élégante et riche? Ne jouait-elle pas du piano comme un premier prix du conservatoire? Ne versait-elle pas le thé avec la correction de Lady Penelope elle-même? N'écrivait-elle pas ses billets du matin d'une écriture anglaise longue, penchée, anguleuse, tout à fait aristocratique? Que pouvait-on trouver à reprendre à ses voitures, qui venaient de chez Binder, à ses chevaux vendus et garantis par Crémieux? Ses laquais n'avaient-ils pas belle encolure, et ne sentaient-ils pas leurs laquais de bonne maison? Ces dîners ne méritaient-ils pas l'approbation des gourmets? Tout cela lui semblait composé, un idéal assez confortable. Cependant, la dame au traîneau, entrevue au bois de Boulogne, lui trottait par la cervelle, et plusieurs fois elle était allée faire le tour du lac dans l'idée de la rencontrer et de voir si Malivert la suivait. La dame ne reparut pas, et la jalousie de madame d'Imbercourt dut s'exercer dans le vide. Personne d'ailleurs ne la connaissait, ne l'avait remarquée. Guy en était-il amoureux ou avait-il cédé à un simple mouvement de curiosité lorsqu'il avait lancé Grimalkin à la poursuite du stepper? C'est ce que madame d'Imbercourt ne put démêler. Elle revint donc à l'idée qu'elle avait effarouché Guy en lui donnant à entendre qu'il la compromettait. Cette phrase qu'elle n'avait dite que pour le forcer à une déclaration formelle, elle regrettait de l'avoir prononcée. Car Guy, trop fidèle à la consigne et d'ailleurs occupé de spirit, s'était abstenu de toute visite. Cette parfaite obéissance piquait la comtesse, qui aurait préféré moins de soumission. Quoique ses soupçons ne s'appuyassent que sur la rapide vision du bois de Boulogne, elle pressentait quelque amour caché derrière ce soin excessif de sa réputation. Pourtant, rien n'était changé dans la vie apparente de Guy, et Jacques, secrètement interrogé par la femme de chambre de madame d'Imbercourt, assura qu'il n'avait pas entendu depuis bien longtemps le moindre froufrou de soie sur l'escalier dérobé de son maître, qui sortait peu, ne voyait guère que le baron de Féroé, vivait en cénobite et passait une grande partie de ses nuits à écrire. D'Aversac renouvelait l'assiduité et madame d'Imbercourt les acceptait avec cette tacite reconnaissance d'une femme un peu délaissée qui a besoin d'être rassurée sur ses charmes par de nouvelles adorations. Elle n'aimait pas M. d'Aversac, mais lui savait gré de priser si haut ce que Guy semblait dédaigner. Aussi, le mardi, à une représentation de la Traviata, fit-on la remarque que la place de Malivert était occupée par d'Aversac, gardé et cravaté de blanc, un camélia à la boutonnière, frisé et pommadé comme un homme à bonne fortune qui a des cheveux et tout rayonnant de fatuité heureuse. Depuis longtemps, il nourrissait cette ambition de plaire madame d'Imbercourt, mais la préférence marquée accordée à Guy de Malivert l'avait rejeté sur le troisième ou quatrième plan, parmi les adorateurs vagues qui tournent de plus ou moins loin autour d'une jolie femme, attendant une occasion, rupture ou dépit, qui ne se présente jamais. Il était plein de petites attentions. Il tendait la lorgnette ou le programme, souriait au moindre mot, se penchait mystérieusement pour répondre, Et quand Madame de Maincourt joignait le bout de ses gants blancs pour approuver quelques points d'orgue de la diva, il applaudissait à tout rompre, levant les mains à la hauteur de sa tête. Bref, il prenait publiquement possession de son emploi de cavalier servant. Déjà, l'on disait dans quelques loges, ah, est-ce que le mariage de Malivert et de Madame d'Avercourt ne se fera pas ? Il y eut un mouvement de curiosité lorsque Guy, après le premier acte, parut à l'entrée de l'orchestre et qu'on le vit, en inspectant la salle, regarder distraitement la loge de la comtesse. D'Aversac lui-même, qui l'avait aperçu, éprouva un léger sentiment de malaise. Mais les lorgnettes les plus perspicaces ne purent saisir le moindre signe de contrariété sur le visage de Malivert. Il ne rougit ni ne pâlit. Ses sourcils ne se contractèrent pas. Aucun muscle de sa face ne bougea. On ne lui vit pas cette mine terrible et farouche des amants jaloux à l'aspect de leur belle courtisée par un autre. Il avait l'air calme, d'une sérénité parfaite. L'expression de sa physionomie était celle que donne le rayonnement d'une joie secrète, et sur ses lèvres voltigeait, comme dit le poète, le sourire mystérieux des voluptés intérieures. Guy serait aimé d'une fée ou d'une princesse, qu'il aurait pas l'air plus triomphant, dit un vieil habitué du balcon, Don Juan émérite. Oh, si Madame d'Abercourt y tient, elle peut porter le deuil de ce mariage projeté, car elle s'appellera jamais Madame de Malivert. Pendant l'entracte, Guy fit une courte visite à la loge de la comtesse pour prendre congé d'elle, car il allait faire un voyage de quelques mois en Grèce. Sa politesse avec d'Aversac fut naturelle, sans contrainte, sans exagération. Il n'eut pas cet air froidement cérémonieux que prennent les gens vexés, et il serra avec une tranquillité parfaite la main de Madame d'Abercourt, dont la contenance trahissait le trouble, quelque effort qu'elle fit pour paraître indifférente. La rougeur qui avait coloré ses joues lorsque Guy avait quitté son fauteuil d'orchestre pour venir à la loge avait fait place à une pâleur où la poudre de riz n'avait aucune part. Elle espérait du dépit, de la colère, un mouvement de passion, une marque de jalousie, peut-être même une querelle. Ce sang-froid qui n'était pas joué la démontait, la prenait au dépourvu. Elle croyait que Malivert l'aimait et elle voyait qu'elle s'était trompée. Cette découverte blessait à la fois son orgueil et son cœur. Guy lui avait inspiré un goût plus vif qu'elle ne l'imaginait elle-même et elle se sentit malheureuse. La comédie qu'elle jouait, dès qu'elle ne servait plus à rien, l'ennuyait, la fatiguait. Malivert partit, elle s'accouda sur le rebord de sa loge, ne répondant que par monosyllabes aux galanteries que lui adressait d'Aversac, décontenancé de ce silence et de cette froideur. Sans qu'il se l'expliquât, le printemps avait succédé l'hiver. Un givre soudain recouvrait les roses. Ai-je dit, ou fait quelque sottise, se disait le pauvre garçon, naguère si bien accueilli, ou par hasard se moquerait-on de moi ? Guy tout à l'heure avait une aisance effectée, et la comtesse semblait bien émue. Aimerait-elle toujours Malivert ? Cependant, comme d'Aversac se savait épié par un certain nombre de lorgnettes, il continua son rôle, se penchant vers la comtesse et lui murmurant à l'oreille, d'un air intime et mystérieux, des banalités que tout le monde eût pu entendre. Le vieil habitué, que ce petit drame amusait, en suivait les péripéties du coin de l'œil. « Oh, d'Aversac fait un mauvais jeu, bonne mine. Il n'est pas assez fort pour cette partie. Cependant, c'est un sot, et les sots ont parfois de la chance auprès des femmes. » La sottise s'entend volontiers avec la folie et la ridon succède à César, surtout lorsque César ne veut plus de son empire. Mais quelle peut être la nouvelle maîtresse de Guy ? Telles étaient les réflexions que faisait ce vétéran de cithare, aussi fort sur la théorie qu'il l'avait été sur la pratique, et il suivait le regard de Malivert pour voir s'il ne s'attachait pas à quelqu'une des belles personnes qui brillaient dans les loges comme des bijoux dans leur écrin. Serait-ce cette blonde vaporeuse, à la guirlande de feuilles d'argent, à la robe vert d'eau, à la parure d'opale, qui semble s'être fardée avec un rayon de lune, comme une elfe ou une nixe, et qui contemple le lustre d'un air sentimental comme si c'était l'astre des nuits ? Ah, ou bien encore cette brune, aux cheveux plus sombres que la nuit, au profil coupé dans le marbre, aux yeux de diamant noir, à la bouche de pourpre, si vivace sous sa chaude pâleur, si passionnée sous son calme de statue, et qu'on prendrait pour une fille de la Vénus de Milo, si ce chef-d'œuvre divin n'est d'y avoir des enfants. Non, ce n'est pas cela, ni la lune ni le soleil. Ah, cette princesse russe là-bas, à l'avant-scène avec son luxe fou, sa beauté exotique et sa grâce extravagante, pourrait avoir des chances. Guy aime assez la bizarrerie, et à cause de ses voyages, il a des goûts un peu barbares. Non, c'est pas celle-là. Il vient de la regarder d'un air aussi froid que s'il examinait un coffret de malachite. Pourquoi pas cette parisienne, dans cette loge découverte, mise avec un goût parfait, si fine, si spirituelle, si jolie, dont chaque mouvement a l'air d'être réglé par une flûte et soulève une écume de dentelle comme si elle dansait sur un plateau d'Herculanum. Oh ! Balzac aurait consacré 30 pages à la description d'une pareille femme. Ça n'aurait pas été du style mal employé. Alors, pour la peine. Mais Guy n'est pas assez civilisé pour goûter ce charme qui séduisait, plus que la beauté même, l'auteur de la comédie humaine. Allons, il faut renoncer à pénétrer aujourd'hui ce mystère. Se dit le vieux beau, en renfermant dans son étui une lorgnette qui ressemblait à une pièce d'artillerie. La dame des pensées de Malivert n'est pas ici, décidément. À la sortie, Daversac se tenait debout sous le péristyle avec toute l'élégance que peut se donner un gentleman, empaqueté dans son paletot, près de Madame d'Imbercourt, qui avait jeté sur sa toilette une pelisse de satin bordée de cygnes, dont le capuchon, retombant sur ses épaules, lui laissait la tête dégagée. La comtesse était pâle, et ce soir-là vraiment belle. La douleur qu'elle ressentait prêtait à sa physionomie, ordinairement d'une régularité froide, une expression et une vie qui lui avait manqué jusqu'alors. Du reste, elle semblait avoir complètement oublié son cavalier, qui restait à deux pas d'elle avec une gravité composée, cherchant à dissimuler et à dire beaucoup de choses. « Mais qu'a donc ce soir, Madame d'Imbercourt ?» disaient les jeunes gens qui stationnaient sous le vestibule pour passer la revue féminine. On dirait qu'il lui est venu une beauté nouvelle. Oh, de Versac est un heureux coquin. Pas si heureux que ça, dit un jeune homme à figure spirituelle et fine qui ressemblait à un portrait de Van Dyck détaché de son cadre. Oh, c'est pas lui qui donne la tête de la comtesse. Inexpressive, d'habitude comme un masque de cire moulé sur une Vénus de Canova. Cette animation et cet accent. L'étincelle vient d'ailleurs. Daversac n'est pas le Prométhée de cette Pandore. Le bois ne saurait faire vivre le marbre. C'est égal, reprit un autre. Malivert est bien dégoûté de quitter la comtesse en ce moment. Elle mérite mieux que Daversac pour vengeur. Je ne sais si Guy trouvera mieux. Il pourrait bien se repentir de son dédain. Oh, il aurait tort, répondit le portrait de Van Dyck. Suivez bien mon raisonnement. Madame d'Imbercourt est plus belle aujourd'hui que l'ordinaire, parce qu'elle est émue. Or, si Malivert ne la quittait pas. Elle n'éprouverait aucune émotion, et ses traits, classiquement corrects, garderaient leur insignifiance. Le phénomène qui vous frappe n'aurait pas lieu. Donc Malivert fera bien de partir pour la Grèce, comme il l'a annoncé hier au club. Dixie. Le valet de pied appelant la voiture de Madame la Comtesse mit fin à cette conversation, et plus d'un jeune homme éprouva le péché d'envie en voyant d'Aversac monter près de Madame d'Hamercourt dans le grand coupé dont la portière fut refermée sur lui par le laquais remonté sur le siège en un clin d'œil. La voiture partit grand train. D'Aversac, à moitié recouvert par des flots de satin, si près de cette femme, aspirant le vague parfum qui s'en exhalait, tâcha de profiter de ce court tête-à-tête pour dire à la comtesse quelques mots d'une galanterie un peu plus tendre. Il fallait trouver sur le champ quelque chose de décisif et de passionné, car il n'y a pas loin de la place Ventadour à la rue de la Chaussée-d'Antin. Mais l'improvisation n'était pas le fort du rival de Guy. Madame de Mercourt, il faut le dire, n'encourageait guère. Silencieuse, blottie dans l'angle du coupé, elle mordillait le coin de son mouchoir bordé de bretelles. Pendant que d'Aversac s'efforçait de mener à fin une phrase laborieusement amoureuse, Madame de Mercourt, qui n'en avait pas écouté un mot, tout occupée à suivre sa propre pensée, lui prit brusquement le bras et lui dit d'une voix brève « Est-ce que vous connaissez la nouvelle maîtresse de M. de Malivert ?» Cette question inopinée et singulière choqua beaucoup d'Aversac. Elle était d'une convenance douteuse et lui prouvait que la comtesse n'avait pas pensé un instant à lui. Le château de cartes de ses espérances s'écroulait à ce souffle de passion. « Je la connais pas, » balbutia l'Aversac, « et je la connaîtrais, la discrétion, la délicatesse m'empêcherait. Tout homme galant, en pareil cas, c'est son devoir. »« Oui, oui, » reprit la comtesse d'un accent saccadé, « les hommes se soutiennent tous entre eux, même lorsqu'ils sont rivaux. » « Je ne saurais rien. » Puis après un court silence, reprenant un peu d'emprise sur elle-même, elle dit « Pardon, mon cher monsieur d'Aversac, j'ai les nerfs horriblement agacés et je sens que je dis des choses folles. Ne m'en veuillez pas et venez me voir demain, je serai plus calme. »« Mais nous voici arrivés, » dit-elle en lui tendant la main. « Où faut-il qu'on vous mette ?» Et d'un pas rapide, elle descendit du coupé et monta le perron sans vouloir souffrir que d'Aversac l'aidât. On voit qu'il n'est pas toujours aussi agréable que les jeunes gens naïfs se l'imaginent de reconduire une belle dame en voiture des Italiens à la chaussée d'Antin. D'Aversac, assez penaud, se fit descendre au club de la rue de Choiseul où son cocher l'attendait. Il joua et perdit une centaine de louis, ce qui ne contribua pas à le remettre en bonne humeur. En rentrant chez lui, il se disait « Mais comment ce diable de Malivert s'y prend-il pour se faire aimer ainsi des femmes ?» Madame d'Hamercourt, après s'être abandonnée aux soins de sa femme de chambre, qui la défie et l'accommoda pour la nuit, s'enveloppa d'un peignoir de cachemire blanc et s'accouda à son pupitre, la main plongée dans ses cheveux. Elle resta ainsi quelque temps, les yeux fixés sur son papier, roulant sa plume entre ses doigts. Elle voulait écrire à Guy, mais c'était là une lettre difficile à faire. Les pensées qui lui arrivaient étaient tumultueuses, s'en allait lorsqu'elle essayait de les enfermer dans une phrase. Elle griffonna 5 ou 6 brouillons surchargés, raturés, illisibles, malgré sa belle écriture anglaise, sans pouvoir parvenir à se satisfaire. Les uns disaient trop, les autres disaient trop peu. Aucun ne rendait les sentiments de son cœur. Tous furent déchirés et jetés au feu. Elle s'arrêta enfin à cette rédaction. « Ne vous fâchez pas, mon cher Guy, d'un mouvement de coquetterie bien innocent, je vous le jure, car il n'avait d'autre but que vous rendre un peu jaloux et de vous ramener à moi. Vous savez bien que je vous aime, quoique vous ne m'aimiez guère. Votre air si froid, si tranquille, m'a glacé le cœur. Oubliez ce que je vous ai dit. C'était une méchante amie qui m'avait fait parler. Ce départ pour la Grèce est-il vrai? Avez-vous à ce point besoin de me fuir, moi qui n'ai d'autre idée que de vous complaire? Non, ne vous en allez pas. Je serai trop malheureuse de votre absence. » La comtesse signa ce billet. Cécile d'Ambercourt le cacheta de ses armes et voulut l'envoyer sur le champ. Mais comme elle se levait pour appeler quelqu'un, la pendule sonna 2 heures. Il était trop tard pour dépêcher un homme au fond du faubourg Saint-Germain où demeurait Guy. « C'est bon, dit-elle, j'enverrai ma lettre de grand matin et Guy aura son réveil, pourvu qu'il ne soit pas déjà parti. » Elle se coucha, fatiguée, brisée, fermant en vain les yeux. Elle pensait à la dame au traîneau et se disait que Malivert l'aimait et la jalousie lui enfonçait ses fines aiguilles dans le cœur. Enfin, elle s'endormit, mais d'un sommeil agité, plein de soubresauts plus pénibles que la veille. Une petite lampe suspendue au plafond en guise de veilleuse et enfermée dans un globe de verre bleu dépoli répandait dans la chambre une lueur azurée assez semblable à celle du clair de lune. Elle éclairait d'un jour doux et mystérieux la tête de la comtesse, dont les cheveux dénoués avaient roulé en larges boucles noires sur la blancheur de l'oreiller qui laissait pendre un de ses bras hors du lit. Au chevet, peu à peu, se condensa une légère vapeur transparente et bleuâtre comme la fumée qui sort d'un brûle-parfum. Cette vapeur prit des contours plus arrêtés et devint bientôt une jeune fille d'une beauté céleste à qui sa chevelure d'or faisait une auréole lumineuse. Spirite, car c'était elle, regardait dormir la jeune femme avec cet air de pitié mélancolique que les anges doivent avoir devant la souffrance humaine et se penchant vers elle comme l'ombre d'un rêve, elle lui fit tomber sur le front 2 ou 3 gouttes d'une liqueur sombre qui renfermait une petite buire semblable aux urnes lacrymatoires qu'on trouve dans les anciens tombeaux, en murmurant « Puisque tu n'es plus un danger pour celui que j'aime et que tu ne peux plus séparer son âme de la mienne, j'ai pitié de toi, car tu souffres à cause de lui, et je t'apporte le divin Népenthès. Oublie et sois heureuse, ô toi qui as causé ma mort. » La vision disparut. Les traits de la belle dormeuse se détendirent, comme si un cauchemar pénible avait succédé à un songe agréable. Un léger sourire voltigea sur ses lèvres. Par un mouvement inconscient, elle ramena dans le lit son beau bras nu, qui avait pris la froideur du marbre comme il en avait déjà la blancheur, et se pelotonna sous le léger édredon. Son sommeil tranquille et réparateur dura jusqu'au matin, et quand elle s'éveilla, la première chose qu'elle aperçut, ce fut sa lettre posée sur la table de nuit. « Faut-il la faire porter ?» dit Aglaé, qui venait d'entrer dans la chambre pour ouvrir les rideaux et voyait les yeux de sa maîtresse se diriger vers la missive. « Oh non !» s'écria vivement la madame d'Ambercourt. « Jette-la au feu !» Puis elle ajouta en elle-même. Mais où donc avais-je la tête? D'écrire une pareille lettre, j'étais folle. Le bateau à vapeur faisant le trajet de Marseille à Athènes était arrivé à la hauteur du cap Malia, la dernière dentelure de cette feuille de mûrier qui forme la pointe de la Grèce et lui a donné son nom moderne. On avait laissé en arrière les nuages, les brouillards et les frimas. On allait de la nuit à la lumière, du froid à la chaleur. Aux teintes grises du ciel d'Occident avait succédé l'azur du ciel oriental, et la mer, d'un bleu profond, ondulait mollement sous une brise favorable, dont le pyroscaphe profitait en déployant ses voiles de phoque noircies par la fumée et semblables à ces voiles de couleur sombre que Thésée hissa par mégarde en revenant de l'île de Crète où il avait vaincu le Minotaure. Février touchait à sa fin, et déjà les approches du printemps, si tardives chez nous, se faisaient sentir dans ce climat heureux, aimé du soleil. L'air était si tiède que la plupart des passagers, déjà aguerris contre le mal de mer, restaient sur le pont, occupés à regarder la côte qu'on entrevoyait dans les vapeurs bleues du soir. Au-dessus de cette zone assombrie, émergeait une montagne visible encore et retenant un rayon de jour sur son sommet lamé de neige. C'était le Tejet, ce qui donnait l'occasion aux voyageurs bacheliers ès-lettres et sachant quelques bribes de latin de citer avec une pédanterie satisfaite le vers si connu de Virgile. Un Français qui cite à propos, chose rare, un vers latin est bien près du parfait bonheur. Quant à citer un vers grec, c'est une félicité réservée aux Allemands et aux Anglais sortant d'Iéna ou d'Oxford. Sur les bancs à claire-voie et les pliants qui encombraient l'arrière du navire se tenaient de jeunes miss coiffées de petits chapeaux à voilettes bleues, leurs abondants cheveux roux enfermés dans un filet, leurs jupissières de voyage pendues au col par une courroie et vêtues de paletots à larges boutons. Elles contemplaient la côte embrumée par l'ombre du soir, avec des jumelles assez fortes pour distinguer les satellites de Jupiter. Quelques-unes plus hardies, ayant le pied marin, arpentaient le pont de ce pas gymnastique que les sergents de la garde professeurs de marche enseignent aux demoiselles d'outre-Manche. D'autres causaient avec des gentlemen d'une tenue irréprochable et d'une correction parfaite. Il y avait aussi des Français, des élèves de l'école d'Athènes, des peintres, des architectes pris de Rome, qui allaient se tremper aux sources du vrai beau. Ceux-là, avec tout l'entrain de la jeunesse, ayant devant elle l'espérance et un petit pécule en poche, faisaient des plaisanteries, riaient bruyamment, fumaient des cigares et se livraient à de chaudes discussions d'esthétique. Les renommées des grands maîtres anciens et modernes étaient discutées, niées et portées au nu. Tout était admirable ou ridicule, sublime ou stupide, car les jeunes gens sont excessifs et ne connaissent pas de moyen terme. Ce ne sont pas eux qui marieraient le roi Modus et la reine Ratio. Ce mariage de convenance ne se fait que plus tard. À ce groupe animé, drapé dans son manteau comme un philosophe du portique, était mêlé un jeune homme qui n'était ni peintre, ni sculpteur, ni architecte, et que les artistes voyageurs prenaient pour arbitre lorsque la discussion aboutissait de part et d'autre à quelques négations obstinées. C'était Guy de Malivert. Ses remarques judicieuses et fines montraient un véritable connaisseur, un critique d'art digne de ce nom, et ces jeunes gens si dédaigneux, qui flétrissent de l'épithète de bourgeois, tout être n'ayant pas manié la brosse, le ciseau ou le tire-ligne, les écoutaient avec une certaine déférence et quelquefois même les adoptaient. La conversation s'épuisa, car tout s'épuise, même une conversation sur l'idéal et le réel, et les interlocuteurs, le gosier un peu desséché, descendirent dans la cabine pour s'humecter le larynx de quelque grog ou de quelque autre breuvage chaud et cordial. Malivert resta seul sur le pont. La nuit était tout à fait tombée. Dans le ciel de l'azur noir, les étoiles brillaient avec des scintillations d'une vivacité et d'un éclat dont ne peut se faire une idée quand on n'a pas vu le ciel de la Grèce. Leurs reflets s'allongeaient dans l'eau, y traçaient des sillages, comme leur effet des lumières posées sur la rive. L'écume brassée par les aubes des roues rejaillissait en millions de diamants qui brillaient un instant et se fondaient en bleuâtre phosphorescence. Le noir pyroscaphe semblait nager dans un bain de lumière. C'était un de ces spectacles qui exciterait l'admiration du philistin le plus obtus, et Malivert, qui n'était pas un philistin, en jouissait délicieusement. Il n'eut pas même l'idée de descendre dans la salle de l'entrepont où règne toujours une chaleur nauséabonde, particulièrement sensible quand on vient de l'air frais, et il continua à se promener de l'arrière à l'avant du navire, contournant les levantins installés le long du bordage sur leurs tapis ou leurs minces matelas du côté de la proue, parmi les paquets de chaînes et les rouleaux de cordage, et quelquefois faisant baisser son voile à quelques femmes qui, ne se croyant pas vues, le soulevaient pour aspirer la fraîcheur nocturne. Guy, comme on le voit, tenait la promesse qu'il avait faite de ne pas compromettre Madame d'Hambercourt. Il s'accouda sur le bastingage et se laissa aller à une rêverie pleine de douceur. Sans doute, depuis que l'amour de Spirit l'avait dégagé des curiosités terrestres, le voyage de Grèce ne lui inspirait plus le même enthousiasme qu'autrefois. C'est un autre voyage qu'il eût voulu faire, mais il ne songeait plus à avancer son départ pour ce monde où sa pensée plongeait déjà. Il savait maintenant les conséquences du suicide, et il attendait sans trop s'impatienter que l'heure de s'envoler avec l'ange qui le visitait fût venue. Assuré de son bonheur futur, il se laissait aller à la sensation présente et jouissait en poète du magnifique spectacle de la nuit. Comme Lord Byron, il aimait la mer. Cette éternelle inquiétude et cette plainte qui ne se tait jamais, même aux heures les plus calmes, ces brusques révoltes et ces fureurs insensées contre l'obstacle immuable avaient toujours plu à son imagination qui voyait dans cette turbulence vaine une secrète analogie avec l'inutile effort humain. Ce qui le charmait surtout de la mer, c'était le vaste isolement, le cercle d'horizon, toujours semblable et toujours déplacé, la solennelle monotonie et l'absence de tout signe de civilisation. La même houle qui soulevait le bateau à vapeur dans sa large ondulation avait lavé les flancs des vaisseaux aux flancs creux dont parle Homère, et il ne lui en restait aucune trace. Son eau avait précisément le ton qui la colorait lorsque la flotte des Grecs la sillonnait. Dans sa fierté, la mer ne garde pas comme la terre les cicatrices du passage de l'homme. Elle est vague, immense et profonde comme l'infini. Aussi, jamais Malivert ne se sentait plus joyeux, plus libre, plus en possession de lui-même que lorsque, debout à la proue d'un navire, s'élevant et s'abaissant, il s'avançait dans l'inconnu. Mouillé par la lanière d'écume rejaillissant sur le pont, les cheveux imprégnés de la vapeur saline, il lui semblait qu'il marchait sur les eaux, et comme un cavalier s'identifie avec la vitesse de sa monture, il s'attribuait la rapidité du vaisseau et sa pensée bondissait au-dessus des vagues. Près de Malivert, Spirit était descendu sans bruit, comme une plume ou un flocon de neige, et sa main s'appuyait à l'épaule du jeune homme. Quoique Spirit fût invisible pour tout le monde, il est permis de se figurer le groupe charmant que formaient Malivert et son aérienne amie. La lune s'était levée, large et claire, pâlissant les étoiles, et la nuit était devenue une espèce de jour bleu, un jour de grotte d'azur, d'un ton vraiment magique. Un rayon dessinait à la proue du navire cet amour et cette psyché, brillant dans le scintillement diamanté de l'écume, comme de jeunes dieux à la proue d'une birème antique. Sur la mer, avec un perpétuel fourmillement lumineux, s'étalait une large traînée de paillettes d'argent, reflet de l'astre émergé de l'horizon et montant lentement dans le ciel. Parfois, un dauphin, descendant peut-être de celui qui portait Arion, traversait de son dos noir le sillage étincelant et rentrait brusquement dans l'ombre, ou bien dans le lointain, comme un point rouge vacillant, se révélait le fanal de quelque barque. De temps à autre, comme une découpure violette, la côte d'un îlot, bientôt dépassé, apparaissait. C'est là, sans doute, disait Spirit, un merveilleux spectacle, un des plus beaux, sinon le plus beau qu'un œil humain puisse contempler. Mais qu'est-ce à côté des prodigieuses perspectives du monde que je quitte pour descendre vers vous, et où bientôt nous volerons l'un près de l'autre, comme des colombes appelées par le même désir. Cette mer qui vous semble si grande n'est qu'une goutte dans la coupe de l'infini, et cet astre pâle qui l'éclaire, imperceptible globule d'argent, se perd dans les effroyables immensités, dernier grain de la poussière sidérale. Oh, que je l'eusse admiré près de vous, ce spectacle, lorsque j'habitais encore la terre et que je me nommais Lavinia. Mais ne croyez pas que j'y reste insensible, j'en comprends la beauté à travers votre émotion. Quelle impatience vous me donnez de l'autre vie, Spirit, répondit Malivert. Et comme avec ardeur je m'élance vers ces mondes aux splendeurs éblouissantes, au-dessus de toute imagination et de toute parole que nous devons parcourir ensemble, et où rien ne nous séparera plus. Oui, vous les verrez, vous en connaîtrez les magnificences et les délices, si vous m'aimez, si vous m'êtes fidèle, si jamais votre pensée ne se détourne vers rien d'inférieur, si vous laissez, comme au fond d'une eau qui repose, tomber au fond de vous l'impur et glossier limon humain. À ce prix, il nous sera permis de savourer, unis éternellement l'un à l'autre, la tranquille ivresse de l'amour divin, de cet amour sans intermittence, sans faiblesse, sans lassitude, et dont l'ardeur ferait fondre les soleils comme des grains de myrrhe sur le feu. Nous serons l'unité dans la dualité, le moi dans le non-moi, le mouvement dans le repos, le désir dans l'accomplissement, la fraîcheur dans la flamme. Pour mériter ces félicités suprêmes, songez à Spirit qui est au ciel, et ne vous souvenez pas trop de Lavinia, qui dort là-bas sous sa couronne de roses blanches sculptées. Ne vous aimais-je pas éperdument, dit Malivert, avec toute la pureté et l'ardeur dont une âme encore retenue sur cette terre peut être capable? « Mon ami, répondit Spirit, persévérez ainsi, je suis contente de vous. » Et comme elle disait ces mots, ses yeux de saphir étoilaient pleins d'amoureuses promesses, et un sourire voluptueusement chaste entr'ouvrait sa bouche adorable. L'entretien se prolongea entre le vivant et l'ombre, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube eussent commencé à mêler leur teinte rose aux nuances violettes de la lune, dont le disque s'effaçait peu à peu. Bientôt, un segment de soleil parut au-dessus de la barre d'un bleu sombre que la mer formait à l'horizon, et le jour se répandit avec une explosion sublime. Spirit, ange de lumière, n'avait rien à redouter du soleil, et elle resta quelques minutes sur la proue, étincelante de clarté rose, et les feux du matin jouant comme des papillons d'or dans sa chevelure soulevée par la brise de l'archipel. Si elle choisissait de préférence la nuit pour faire ses apparitions, c'était parce que, le mouvement de la vie humaine vulgaire étant suspendu, Guy se trouvait plus libre, moins observé, et délivré du risque de passer pour fou à cause d'actions d'une extériorité forcément bizarre. Comme elle vit Malivert pâle et glacé dans le frisson de l'aurore, elle lui dit d'un ton doucement grondeur « Allons, pauvre créature d'argile, ne luttez pas contre la nature. Il fait froid, la rosée marine trempe le pont et mouille les cordages. Entrez dans la cabine, allez dormir. » Et puis elle ajouta avec une grâce toute féminine « Le sommeil ne nous sépare pas. Je serai dans tous tes rêves et je t'emmènerai là où tu ne peux encore venir pendant la veille. » En effet, le sommeil de Guy fut traversé de songes azurés, radieux, surnaturels, où il volait côte à côte avec Spirit à travers des Élysées et des paradis, mélange de lueurs, de végétation et d'architectures idéales dont aucune phrase de nos pauvres langues, si bornes et si imparfaites, si opaques, ne saurait éveiller l'idée même la plus lointaine. Il est inutile de décrire avec détail les impressions de voyage de Malivert. Ce serait sortir du cadre de ce récit, et d'ailleurs Guy, occupé de son amour et distrait par un désir inexorable, faisait beaucoup moins attention qu'autrefois aux choses matérielles. Il n'apercevait plus la nature que dans un lointain vague, brumeux et splendide, servant de fond à son idée fixe. Le monde n'était pour lui que le paysage de Spirit, et encore trouvait-il les plus beaux sites peu dignes de cet emploi. Cependant, le lendemain, au lever du jour, il ne put retenir un cri d'admiration et de surprise lorsque, le bateau à vapeur entrant dans la rade du Pirée, il découvrit le merveilleux tableau qu'éclairait le matin. Le Parnasse, l'Imette, formaient avec leur pente petite couleur d'améthyste comme les coulisses du splendide décor dont le lycabette bizarrement découpé et le pentélique occupaient le fond. Au milieu, comme un trépied d'or sur un autel de marbre, s'élevait sur l'acropole le Parthénon illuminé par les lueurs vermeilles du matin, les teintes bleuâtres des lointains apparaissant à travers les interstices des colonnes écroulées rendaient encore plus aérienne et plus idéale la noble forme du temple. Malivert eut le frémissement que donne la sensation du beau, et il comprit ce qui jusqu'alors lui avait semblé obscur. Tout l'art grec se révélait à lui, romantique, dans cette rapide vision, c'est-à-dire la parfaite proportion de l'ensemble, la pureté absolue des lignes, la suavité incomparable de la couleur faite de blancheur d'azur et de lumière. Aussitôt débarqué, sans s'occuper de ses bagages, laissés aux soins de Jacques, il se jeta dans un de ces fiacres qui, à la honte de la civilisation moderne, emporte à défaut de chars antiques les voyageurs du Pirée vers Athènes sur une route blanche de poussière et bordée çà et là de quelques oliviers enfarinés. Le véhicule de Malivert, tout démantelé et rendant un son inquiétant de ferraille, était emporté au galop par deux petits chevaux maigres d'un gris pommelé, à la crinière relevée et coupée en brosse. On eût dit le squelette, ou plutôt la maquette en terre, des chevaux de marbre qui se cabrent sur les métopes du Parthénon. Leurs aïeux, sans doute, avaient posé pour Phidias. Ils étaient foyés à tour de bras par un éphèbe revêtu d'un costume de palicare, qui, peut-être, conducteur d'un plus brillant attelage, eût jadis remporté le prix des chars aux courses d'Olympie. Laissant les autres voyageurs envahir l'hôtel d'Angleterre, Guy se fit conduire au pied de la colline sacrée où le genre humain, dans sa fleur de jeunesse, de poésie et d'amour, entassa ses plus purs chefs-d'œuvre comme pour les préserver à l'admiration des dieux. Il monta l'ancienne rue des Trépieds, enfouie sous d'informes cahutes, foulant d'un pas respectueux cette poussière faite de merveilles, et déboucha enfin sur cet escalier des propylées dont on a soulevé des marches pour en faire des pierres tombales. Il gravit cet étrange cimetière, parmi un tumulte de dalles soulevées, entre les soubassements dont l'un porte le petit temple de la victoire à Ptère, et l'autre servait de piédestal à la statue équestre de Simon et de Terre-Plein à la Pinacothèque, où se conservaient les chefs-d'œuvre de Zeuxis, d'Apelle, de Timanthe et de Protogène. Il franchit les propylées de Mexiclès, chefs-d'œuvre dignes de servir de porte aux chefs-d'œuvre d'Ictinus et de Phidias, avec un sentiment d'admiration religieuse. Il avait presque honte, lui, barbare d'Occident, de marcher avec des bottes sur ce sol sacré. Au bout de quelques pas, il se trouva devant le Parthénon, le temple de la Vierge, le sanctuaire de Pallas Athénée, la plus pure conception du polythéisme. L'édifice se déployait dans la bleue sérénité de l'air, avec une placidité superbe et une majestueuse suavité. Une divine harmonie présidait à ses lignes, qui, sous un rythme secret, chantait l'hymne de la beauté. Toutes, doucement, tendaient à un idéal commun, inconnu, convergeaient vers un point mystérieux, mais sans effort, sans violence, et comme sûr de l'atteindre. Au-dessus du temple, on sentait planer cette pensée vers laquelle l'angle des frontons, les entablements, les colonnes aspiraient et semblaient vouloir monter, imprimant d'imperceptibles courbes à l'horizontale et au perpendiculaire. Les belles colonnes doriques, drapées dans les plis de leurs cannelures et un peu rejetées en arrière, faisaient rêver à de chastes vierges qu'alanguit un vague désir. Une couleur blonde et chaude enveloppait la façade dans une atmosphère d'or, et sous le baiser du temps, le marbre avait pris une nuance vermeille et comme une rougeur pudique. Sur les marches du temple, entre les deux colonnes derrière lesquelles s'ouvre la porte du Pronaos, Spirit se tenait debout dans cette pure clarté grecque, si peu favorable aux apparitions. Au seuil même de ce Parthénon si clair, si parfait, si lumineusement beau. Une longue robe blanche, sculptée à petits plis comme les tuniques des canéphores, descendait de ses épaules jusque sur le bout de ses petits pieds nus. Une couronne de violettes, de ces violettes dont Aristophane célèbre la fraîcheur dans une de ses parabases, saignait ses cheveux d'or aux bandeaux ondés. Costumé ainsi, Spirit ressemblait à une vierge des Panathénées descendue de sa frise. Mais dans ses yeux de pervenche brillait une lueur attendrie qu'on ne voit pas aux yeux de marbre blanc. À cette radieuse beauté plastique, elle ajoutait la beauté de l'âme. Malivert monta les degrés et s'approcha de Spirit, qui tendit la main vers lui. Alors, dans un éblouissement rapide, il vit le Parthénon comme il était au jour de sa splendeur. Les colonnes tombées avaient repris leur place, les figures du fronton arrachées par Lord Elgin ou brisées par les bombes vénitiennes s'étaient groupées sur les frontons, pures, intactes, dans leurs attitudes humainement divines. Par la porte de la cella, Malivert entrevit, remontée sur son piédestal, la statue d'or et d'ivoire de Phidias, la céleste, la vierge, l'immaculée Pallas Athéna. Mais à ce prodige, il ne jeta qu'un regard distrait, et ses yeux cherchèrent aussitôt les yeux de Spirite. Ainsi dédaignée, la vision introspective s'était évanouie. « Oh !» murmura Spirite, « l'art lui-même est oublié pour l'amour. Son âme se détache de plus en plus de la terre. Il brûle, il se consume. Bientôt, chère âme, il sera accompli ton désir. » Et le cœur de la jeune fille, battant encore dans la poitrine de l'esprit, un soupir souleva son blanc péplos. Quelques jours après cette visite au Parthénon, Guy de Malivert résolut de faire une tournée dans les environs d'Athènes et d'aller visiter ces belles montagnes qu'il découvrait de sa fenêtre. Il prit un guide et deux chevaux et laissa Jack à l'hôtel comme inutile et même gênant. Jack était d'un de ces deux mystiques plus difficiles à contenter que leur maître et dont le désagrément ne se révèle qu'en voyage. Il avait ses manies comme une vieille fille, trouvait tout détestable, les chambres, les lits, les mets, les vins, et à tout moment, outré de la barbarie du service, il s'écriait « Oh, les sauvages !» En outre, s'il reconnaissait à Malivert quelque talent pour écrire, il le jugeait en lui-même incapable de se gouverner, et pas simplement fou. Depuis surtout le jour quelque temps, et il s'était donné la mission de le surveiller. Un froncement de sourcils de Malivert le faisait d'ailleurs reculer à son plan, et le mentor, avec une merveilleuse facilité de métamorphose, reprenait le rôle de valet de chambre. Guy fit glisser un certain nombre de pièces d'or dans une ceinture de cuir qu'il portait sous ses vêtements, mit des pistolets aux fentes de sa selle, et en partant, n'assigna pas de jour fixe pour ce retour, voulant se laisser la liberté de l'imprévu, de l'aventure, du vagabondage à tout hasard. Il savait que Jacques, accoutumé à ses disparitions, ne s'alarmerait pas de plusieurs jours et même de plusieurs semaines de retard, et resterait dans une quiétude parfaite dès qu'il aurait appris au cuisinier de l'hôtel à faire cuire le beefsteak selon ses idées, saisi au dehors et rose en dedans, à l'anglaise. L'excursion de Guy, sauf changement d'idée, devait se borner au Parnasse et ne pas dépasser 5 ou 6 jours. Mais au bout d'un mois, ni Malivert ni son guide n'avaient reparu. Aucune lettre n'était venue à l'hôtel annonçant un changement ou une prolongation d'itinéraire. La somme emportée par Guy devait tirer à sa fin et ce silence commençait à devenir inquiétant. « Monsieur ne me demande pas d'argent, » se dit Jacques un matin, en mangeant un beefsteak enfin cuit à point qu'il arrosait d'un vin blanc de Santorin, assez agréable, malgré son petit goût de résine. « Cela n'est pas naturel, il doit lui être arrivé quelque chose. » S'il continuait son voyage, il m'aurait indiqué une ville pour lui envoyer des fonds, puisque c'est moi qui tiens la bourse. Pourvu qu'il ne se soit pas cassé le cou ou les reins dans quelque précipice. Oh, si quel diable d'idée a-t-il de chevaucher toujours par des pays sales, mal pavés, absurdes, faméliques, tandis que nous pourrions être à Paris, douillettement installés, dans un intérieur confortable, à l'abri des insectes, des moustiques et autres vilaines bêtes qui nous font venir des ampoules. Dans la belle saison, je ne dis pas, je conçois qu'on aille à Ville d'Avray, à la Selle-Saint-Cloud, à Fontainebleau. Non, pas à Fontainebleau, il y a trop de peintres. Et encore, j'aime mieux Paris. On a beau dire, la campagne est faite pour les paysans, et les voyages pour les commis voyageurs, puisque c'est leur état. Mais cela finit par n'être pas drôle d'être planté à l'auberge pour reverdir dans une ville où il n'y a que des ruines à voir. Dieu, sont-ils bêtes, les maîtres, avec leurs vieilles pierres, comme si les bâtiments neufs et bien entretenus n'étaient pas 100 fois plus agréables à l'œil. Ah, décidément, monsieur manque tout à fait d'égard envers moi. C'est vrai, je suis son domestique, mon devoir est de le servir, mais il n'a pas le droit de me faire mourir d'ennui à l'hôtel d'Angleterre. S'il lui était arrivé quelque malheur à ce cher maître, après tout, c'est un bon maître. Je m'en consolerais que si je trouvais une meilleure place. J'ai bien envie d'aller à sa recherche, mais de quel côté? Qui sait où sa fantaisie l'a poussé? Aux sites les plus extravagants et les plus impraticables, dans ses casse-cou et ses frontières, qu'il appelle pittoresques. Et dont il prend le signalement sur son album comme si c'était chose curieuse. Allons, lui donne encore 3 jours pour réintégrer le domicile, après quoi je le fais tambouriner et afficher à tous les carrefours comme un chien perdu, avec promesse de récompense honnête à qui le ramènera. En sa qualité de serviteur sceptique et moderne, se moquant fort du valet de chambre dévoué et fidèle à la mode ancienne, l'honnête Jacques raillait son inquiétude très véritable. Au fond, il aimait Guy de Malivert et lui était attaché, quoiqu'il se supportait sur le testament de son maître pour une somme qui lui assurait une modeste aisance, il n'en désirait pas la mort. L'hôte commençait à se montrer soucieux, non de Malivert, dont la dépense était payée, mais des 2 chevaux qu'il avait fournis pour l'expédition. Et comme il se lamentait sur le sort problématique de ces 2 bêtes sans pareil, d'un pied si sûr, d'une allure si douce, d'une bouche si tendre et qu'on conduisait avec un fil de soie, Jacques, impatienté, lui dit d'un air de dédain suprême « Eh bien, si elles sont crevées, vos 2 races, on vous les paiera !» Assurance qui rendit toute sa sévérité au brave Diamantopoulos. Chaque soir, la femme du guide, belle et robuste matrone qui eût pu remplacer la cariatide enlevée au Pantrocion et que supplée un moulage de terre cuite, venait demander si Stavros, son mari, n'était pas revenu avec ou sans le voyageur. Après la réponse invariablement négative, elle allait s'asseoir sur une pierre à peu de distance de l'autel, défaisait la natte blonde postiche qui cerclait ses cheveux noirs, dont elle secouait les mèches, se portait les ongles aux joues comme si elle eût voulu s'égratigner, poussait des soupirs de ventriloque et se livrait aux démonstrations théâtrales de la douleur antique. Ce n'est pas qu'au fond elle fut très touchée, car Stavros était un assez piètre sujet, fort d'ivrogne, qui la battait quand il était gris, et rapportait peu d'argent au ménage, quoiqu'il en gagnât assez à mener des étrangers en laisse. Mais elle devait aux convenances de manifester un désespoir suffisant. Une médisance qui n'était pas une calomnie l'accusait de faire consoler ses veuvages intermittents par un beau palicare à la taille de guêpe, à la fustanelle évasée en cloche, mesurant bien 60 mètres de fine étoffe plissée, à la calotte rouge dont la houppe de soie bleue lui descendait jusqu'au milieu du dos. Cette douleur vraie ou fausse, exprimée en rauques sanglots qui rappelaient les aboiements des cubes, ennuyait et troublait fort Jacques, qui, bien qu'incrédule, était un peu superstitieux. « Elle aime pas, disait-il, cette femme qui hurle au perdu comme un chien sentant la mort. » Et les 3 jours qu'il avait accordés comme limite extrême pour le retour de Malhiver étant expirés, il alla faire sa déclaration à la justice. On se livra aux plus actives recherches dans la direction probable qu'avaient dû prendre Malhiver et son guide. La montagne fut battue dans tous les sens, et dans un chemin creux, on trouva une carcasse de cheval couchée sur le flanc, entièrement déshabillée de son harnais et déjà à moitié dévorée par les corbeaux. Une balle lui avait brisé l'épaule, et l'animal avait dû s'abattre sur le cou avec son cavalier. Autour de la bête morte, le terrain semblait avoir été foulé, comme dans une lutte, mais trop de temps s'était écoulé déjà depuis l'époque présumée de l'attaque, qui devait remonter à plusieurs semaines. Il n'y avait pas grande induction à tirer de ces vestiges, à demi effacés par la pluie ou le vent. Dans un buisson de lentisque, voisin de la route, une branche avait été coupée à moitié au passage d'un projectile. La portion supérieure avait fléchi et pendait desséchée. La balle, qui était celle d'un pistolet, fut retrouvée plus loin dans le champ. La personne assaillie paraissait s'être défendue. Quelle avait été l'issue de la lutte? On devait croire qu'elle avait été fatale, puisque Malhiver ni son guide n'avaient reparu. Le cheval fut reconnu pour un de ceux qu'avait loué Diamantopoulos au jeune voyageur français. Mais, faute d'éléments plus précis, l'instruction ne put aller plus loin. Toute trace des agresseurs, de la victime ou des victimes, car il devait y en avoir 2, se perdait. Le fil conducteur se cassait dès le commencement. Le signalement détaillé de Malhiver et de Stavros fut envoyé à tous les endroits possibles où le tracé des routes avait dû les conduire. On ne les avait vus nulle part. Leur voyage s'était terminé là. Peut-être des brigands avaient-ils amené Malhiver dans quelque caverne inaccessible de montagne, avec l'idée d'en tirer rançon. Mais cette supposition tombait d'elle-même au bout de quelques minutes d'examen. Les bandits auraient envoyé un des leurs, déguisés à la ville, et trouvé moyen de faire passer à Jacques une lettre contenant les conditions du rachat, avec menace de mutilation en cas de retard et de mort en cas de refus, ainsi que se traitent ces sortes d'affaires. Mais c'est ce qui n'avait pas eu lieu. Aucun papier de ce genre n'était venu de la montagne à Athènes, et la poste aux lettres des brigands n'avait pas fonctionné. Jacques, que l'idée de retourner en France sans son maître, dont on pourrait le croire l'assassin, troublait singulièrement, bien qu'il n'eût pas bougé de l'hôtel d'Angleterre, ne savait à quel saint se vouer, et plus que jamais il maudissait cette manie de voyage qui entraînait un homme bien mis dans des sites farouches où des voleurs en costume de carnaval les tiraient comme un lièvre. Quelques jours après ses recherches, Stavros reparut à l'hôtel. Mais dans quel état, grand Dieu ! Ave, maigre, défait, l'air effaré et fou, comme un spectre qui sort du tombeau sans en avoir secoué la terre. Son costume riche et pittoresque dont il tirait vanité et qui produisait un si bon effet sur les voyageurs épris de couleur locale, lui avait été enlevé et était remplacé par des guenilles sordides, tout empreintes de la boue des bivouacs. Une peau de mouton graisseuse couvrait ses épaules, et nul n'aurait reconnu en lui le guide favori des touristes. Son retour inattendu fut signalé à la justice. Stavros fut provisoirement arrêté, car enfin, quoique bien connu dans Athènes et relativement honnête, il était parti avec un voyageur et revenait seul. Circonstance que les juges méticuleux ne trouvent pas volontiers naturelle. Cependant, Stavros parvint à démontrer son innocence. Son industrie de guide s'opposait logiquement à ce qu'il détruisît les voyageurs dont il tirait profit, et qu'il n'avait d'ailleurs pas besoin d'assassiner pour les voler. Pourquoi aurait-il été attendre au bord du chemin des victimes qui le suivaient de leur plein gré sur la grande route et lui accordant de leur or une part suffisante? Mais le récit qu'il faisait de la mort de Malivert était des plus étranges et vraiment difficiles à croire. Selon lui, pendant qu'il chevauchait paisiblement l'un et l'autre dans le chemin creux à la place où l'on avait trouvé la carcasse du cheval, une détonation d'armes à feu s'était fait entendre, suivie d'une autre à un intervalle inappréciable. Le premier coup avait renversé le cheval que montait M. de Malivert, et le second atteint le voyageur même, qui par un mouvement instinctif avait porté la main au fond de sa selle et lâché au hasard un coup de pistolet. Trois ou quatre bandits s'étaient élancés des buissons pour dépouiller Malivert. Deux autres l'avaient fait descendre de cheval, lui, Stavros, et le tenaient par les bras, quoiqu'il n'essayât pas une résistance inutile. Jusque-là, le récit ne différait pas beaucoup des vulgaires histoires de grands chemins, mais la suite était beaucoup plus incroyable, quoique le guide l'affirmât sous la foi du serment. Il prétendait avoir vu, près de Malivert mourant, dont le visage, loin d'exprimer les angoisses de l'agonie, rayonnait au contraire d'une joie céleste, une figure d'une éclatante blancheur et d'une merveilleuse beauté, qui devait être la Panagia, et qui posait sur la blessure du voyageur, comme pour lui ôter la souffrance, une main de lumière. Les bandits, effrayés de l'apparition, s'étaient enfuis à quelque distance, et alors la belle dame avait pris l'âme du mort et s'était envolée au ciel avec elle. On ne put jamais le faire varier dans cette déposition. Le corps du voyageur avait été caché sous une roche déplacée au bord d'un de ces torrents dont le lit toujours sec en été est rempli de lauriers roses. Quant à lui, pauvre diable, ne valant pas la peine d'être tué, après l'avoir dépouillé de ses beaux habits, on l'avait emmené bien loin dans les montagnes pour qu'il n'allât pas dénoncer le meurtre, et c'était avec grand-peine qu'il était parvenu à s'échapper. Stavros fut relâché. S'il eût été coupable, il lui était facile de gagner les îles ou les côtes d'Asie avec l'argent de Malivert. Son retour prouvait son innocence. Le récit de la mort de Malivert fut envoyé à Madame de Marillac, sa sœur, à peu près dans les mêmes termes où Stavros l'avait fait. L'apparition de Spirit y était même mentionnée, mais comme une hallucination produite par la frayeur sur le guide dont le cerveau ne paraissait pas bien sain. À peu près à l'heure où cette scène de meurtre se passait sur le mont Parnasse, le baron de Féroé était retiré, selon sa coutume, au fond de son appartement inaccessible, occupé à lire cette étrange et mystérieux ouvrage de Swedenborg qui a pour titre « Les mariages de l'autre vie ». Au milieu de sa lecture, il sentit un trouble particulier, comme lorsqu'il était averti de quelques révélations. La pensée de Malivert traversa son esprit, quoiqu'elle n'y fût amenée par aucune transition naturelle. Une lueur se répandit dans sa chambre, dont les murs devinrent transparents, et qui s'ouvrit comme un temple hypètre, laissant voir une immense profondeur, non pas le ciel qui arrête les yeux humains, mais le ciel pénétrable aux seuls yeux des voyants. Au centre, d'une effervescence de lumière qui semblait partir du fond de l'infini, deux points d'une intensité de splendeur plus grande encore, pareils à des diamants dans de la flamme, scintillaient, palpitaient et s'approchaient, prenant l'apparence de Malivert et de Spirit. Ils volaient l'un près de l'autre dans une joie céleste et radieuse, se caressant du bout de leurs ailes, se lutinant avec de divines acasseries. Bientôt, ils se rapprochèrent de plus en plus, et comme deux gouttes de rosée roulant sur la même feuille de lys, ils finirent par se confondre dans une perle unique. Les voilà heureux à jamais, leurs âmes réunies forment un ange d'amour, dit avec un soupir mélancolique le baron de Féroé. Et moi, combien de temps me faudra-t-il encore attendre ?